Dialogue entre Congolais avec Alain Irung.
Bonsoir. À l'issue de sa visite à Kinshasa, le directeur général sortant de la FAO a déclaré que la RDC occupe le premier plan en matière de potentialité en terre, eau et biodiversité, et donc elle a un rôle national et régional à jouer en matière de production agricole. Comment analyser la déclaration du directeur général sortant de la FAO? Quel rôle la RDC devrait-elle jouer pour faire face à la crise alimentaire qui frappe l'Afrique? Nos invités dans cette émission sont Dr Hubert Ali Ramazani, secrétaire général au ministère de l'Agriculture. Docteur, bonsoir.
Bonsoir.
Ingénieur Mamba Mamba, président de l'Association des ingénieurs agronomes du Congo. Ingénieur Mamba Mamba, bonsoir.
Bonsoir.
Jean-Lucien Boussa, député national MLC et vice-président de la Commission économique et financière à l'Assemblée nationale. Il est en ligne. Honorable Boussa, bonsoir.
Bonsoir.
Comme d'habitude, vos réactions, chers auditeurs et internautes, nous parviennent déjà. Georges de Matadioba, Congo. Je pense que la RDC n'a malheureusement au stade actuel aucun rôle à jouer sur le plan régional, d'autant plus que nous manquons une politique agricole de développement, une situation qui doit nous interpeller et pousser nos décideurs à revoir leur mode de gestion, car la population congolaise en a assez de souffrir au moment où nous prétendons avoir un pays riche et prospère. Gérard Lukanga, je pense que le DG de l'ancien boss de la FAO veut simplement rappeler aux autorités congolaises que l'agriculture est et demeure une priorité. Bienvenue à tous dans votre émission.
Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions en appelant au 081 890 66 78 ou nous écrire par SMS au 081 051 57 78 et par mail, écrivez-nous à tech@radiookapi.net.
Le directeur général sortant de la FAO a clôturé ce mardi sa visite officielle de 2 jours à Kinshasa en RDC. Il a eu des discussions avec les autorités congolaises, les agences du système des Nations Unies au sujet des projets qui lient la RDC et la FAO. Comment les approfondir et les élargir face aux menaces de la crise alimentaire qui secoue le continent? Les projets de reconstitution du potentiel agricole de l'Afrique en matière de la production du riz, manioc et de la banane ont porté du fruit et mérite d'être soutenu Jacques Diouf. Pour cela, le directeur général de la FAO croit en la place de la RDC qui dispose des millions d'hectares de terres arables. On écoute Jacques Diouf, directeur sortant de la FAO.
Nous avons indiqué notre disponibilité à renforcer cette coopération. La RDC, naturellement, est au premier plan en matière de potentiel hydrique, de potentiel en terre et aussi de potentiel en biodiversité. C'est dire donc que son rôle n'est pas seulement national, mais il est régional. Il est donc important que nous soutenions les efforts de la sous-région, notamment à travers la COMIFAC et tout le travail qui se fait sur les écosystèmes forestiers du bassin du Congo, mais aussi de la zone indonésienne, malaisienne et naturellement toute la partie brésilienne, essentiellement la zone de l'Amazonie qui d'ailleurs dépasse le Brésil.
Voilà, d'après certaines recherches, la RDC dispose d'un potentiel agricole tel que si exploité à un niveau technologique comme un moyen, pourrait nourrir le tiers de la population mondiale. La RDC compte 80 millions d'hectares de terres arables, dont moins de 10% est exploité. Elle dispose de 125 millions d'hectares de forêts tropicales, une diversité climatique et une abondance d'eau propice à une productivité soutenue du secteur agricole, une capacité d'élevage capable de produire 40 millions de têtes de bétail et potentiel de production annuelle de poissons de près de 700 000 tonnes. Docteur Hubert Ali Ramazani, secrétaire général au ministère de l'Agriculture, comment vous interprétez cette déclaration du DG sortant de la FAO?
Oui, merci beaucoup pour la question. Et je peux vous dire d'emblée que j'affirme et je confirme les dires de monsieur le directeur général de la FAO, monsieur Jacques Diouf, en prenant en considération les potentialités de notre pays et les possibilités que nous pouvons, n'est-ce pas, au niveau de la production du secteur agricole à nourrir la population congolaise et une bonne partie de l'Afrique. Il est vrai que il a cité les 80 millions d'hectares de terres arables qui sont disponibles, mais il y a aussi autant d'autres possibilités, comme 4 millions de terres qu'on peut irriguer pour amener encore une autre augmenter la production, et pour donc des espaces de bas-fonds pour les cultures maraîchères et autres. Donc c'est vrai, la République démocratique du Congo a cette capacité-là, donc d'être vraiment les greniers de l'Afrique.
Mais semble l'ignorer, hein?
On ne l'ignore pas, c'est un pays qui a, comme vous le savez, nous connaissons pas mal de problèmes d'ordre politique, si je peux dire, de conflits de tout genre, qui empêchent, n'est-ce pas, le développement ou le décollage réel de l'agriculture congolaise. Jadis, le pays était un pays exportateur de produits agricoles, de plusieurs produits à travers le monde, dont l'huile de palme, nous étions les premiers. Et aujourd'hui, nous sommes devenus, en quelque sorte, un importateur net de produits agricoles. C'est une situation que les autorités du pays sont en train de corriger pour amener le pays à récupérer sa place d'antan. Donc c'est vrai, il faut encore, comme on dit, il y a les facteurs de production sont là, la terre, l'eau, la biodiversité climatique, il n'a pas dit, parce que nous sommes à cheval sur l'équateur, nous pouvons avoir la saison, donc les produits de la saison sèche, quand il y en a au sud, au nord le peu de produits, quand il y en a au nord, le sud peut le faire.
Et pourtant nous mourrons de faim.
Oui, ça c'est vrai.
Malheureusement.
Malheureusement, donc, on mourait de faim, on commence à rétablir la situation. C'est l'agriculture, on ne le fait pas dans un an, dans 2 ans, dans 3 ans, c'est un développement qui doit se faire de façon durable. Donc ça prend du temps. Et comme on a eu le temps de détruire le système de la production agricole, on a ajouté à cela les conflits qui a pratiquement occupé une bonne partie du pays, surtout les zones de production agricole, ce sont les zones rurales, où les personnes étaient obligées de quitter les zones pour habiter les centres de ville et de ne plus produire. Donc c'est un fait que nous reconnaissons, que nous avons eu des problèmes. Les zones rurales commencent à être sécurisées et les populations y reviennent. Nous avons l'outil de production qui commence à être vraiment disponibilisé sur le terrain. Et je crois, et je suis sûr que si cette paix perdure, nous allons revenir à notre place d'antan.
Il y a beaucoup d'auditeurs qui ont posé la question, beaucoup d'auditeurs et d'internautes. Docteur Hubert Ali Ramazani, y a-t-il une politique agricole dans ce pays?
Je vous confirme que oui. Ça fait de longues années. On n'avait jamais eu de politique agricole dans ce pays. Nous avions eu des programmes, des plans. On peut en citer pas mal que vous connaissez, des dizaines de plans, mais qui n'ont jamais été appuyés par une vraie volonté politique. Depuis un certain temps, nous avons pris pratiquement 4 ans pour élaborer non seulement la politique du secteur agricole et rural, mais aussi les stratégies qui doivent accompagner la politique du secteur agricole et rural. Donc ce document a été approuvé et nous disposons aujourd'hui d'un document qui est tout à fait fiable et qui raconte toutes les préoccupations tant de la production vivrière que des cultures pérennes. Ajoutez à cela de cette politique nationale et stratégie en matière agricole, il y a la loi portant sur les principes fondamentaux de l'agriculture. Donc c'est le soubassement. C'est comme si je peux dire, on veut bâtir une ligne de chemin de fer, on pose des rails. Et ce document-là qui a été approuvé et par l'Assemblée nationale et par le Sénat et aussi par la commission paritaire, et sur la table du chef de l'État pour la promulgation.
Voilà, la politique agricole existe, il y a des documents qui sont encore sur la table du chef de l'État, mais on peut aussi se poser la question, quelle est la part du budget allouée à l'agriculture pour concrétiser tous ces programmes dont vous parlez?
Vous avez raison, jusqu'à présent, le budget alloué au secteur agricole n'a pas encore atteint le volume voulu.
Il est à peu près de combien?
On va y arriver. Nous avons assisté à beaucoup de rencontres, à plusieurs rencontres, dont au sommet, au niveau surtout la grande réunion de Maputo, en 2003, où il a été accepté et notre pays a signé donc cette convention, cet accord, de pouvoir accorder au secteur agricole 10%, n'est-ce pas, du budget national. On était pratiquement vers les 0,0%. Nous tendons de plus en plus vers 3 à 4% dans le secteur agricole.
Très loin encore de 10%.
Mais ça va y arriver.
Voilà. Honorable Jean-Lucien Boussa, vous êtes député national MLC et vice-président de la Commission économique et financière à l'Assemblée nationale. Honorable, comment vous analysez cette déclaration du DG sortant de la FAO?
Ben, je voudrais d'abord vous dire que monsieur le représentant de la FAO s'est prononcé 3 ans après moi. Donc 3 ans après les Congolais, parce que nous avons assisté en 2009 janvier à une conférence à Paris des groupes de parlementaires de la Banque mondiale dont je faisais partie, je représentais les parlements congolais à ces sujets. Au cours de cette conférence, j'ai pris la parole pour indiquer justement ce qui vient d'être dit aujourd'hui 3 ans après. Lorsque la crise alimentaire faisait rage, les solutions conjoncturelles qui avaient été trouvées ou qui étaient en train d'être imaginées étaient des solutions qui n'étaient pas, à notre sens, efficaces. Au lieu de dépenser des milliards de dollars, 200 milliards de dollars pour résoudre de manière conjoncturelle un problème que le monde entier pouvait bien résoudre de manière structurelle, nous avons suggéré et nous avons dit à l'époque que la République démocratique du Congo était la réponse à la crise alimentaire mondiale. En ce sens qu'il suffisait d'investir ces milliers ou ces milliards de dollars en République démocratique du Congo dans le développement de l'agriculture, le monde avait la réponse à un problème pourtant récurrent. Et donc, je suis heureux aujourd'hui que nous ayons été entendus. Malheureusement, 3 ans après, le monde entier vient de reconnaître, à travers ses représentants de la FAO, que la République démocratique du Congo intéressait le monde entier, c'est-à-dire la République démocratique du Congo était la réponse à la crise alimentaire mondiale et offrait des possibilités immenses pour pouvoir permettre au monde entier de pouvoir se retrouver. Mais il y a des défis immenses. Le premier défi, c'est que la République démocratique du Congo elle-même doit d'abord résoudre ses propres problèmes aujourd'hui. Mais 80% des Congolais ne mangent pas bien. Et tout le monde sait que le monde rural donc occupe 70% de notre population. Le premier défi est que donc ces potentiels puissent pouvoir permettre, n'est-ce pas, grâce à des politiques cohérentes, mais des politiques globales aussi, qui ne voient pas seulement le secteur agricole, mais aussi tout ce qui est autour de l'agriculture, à savoir les infrastructures, les routes de dessertes agricoles, l'agro-industrie et l'industrie, n'est-ce pas, que toutes ces politiques permettent véritablement à la République démocratique du Congo de trouver sa place et de lui donner sa vocation, n'est-ce pas, du pays qui répond à la problématique de la crise alimentaire mondiale.
Honorable, vous avez suivi Dr. Hubert Ali Ramazani qui a quand même signifié ou stigmatisé le fait que c'est aussi vous les politiciens qui avez mis, par vos caprices entre guillemets, qui avez mis en mal l'agriculture de ce pays.
Mais non, mais c'est vrai. C'est vrai que dans ce pays, il a manqué beaucoup de choses. Premièrement, il a manqué de véritables volontés politiques pour développer ces pays, en commençant par le secteur agricole, qui est le secteur le plus important. Je vous rappelle que beaucoup de pays du monde se sont développés à partir de l'agriculture. La Chine, les États-Unis et consorts. La République démocratique du Congo, vers les années 70, occupait les meilleures places en Afrique. Donc, c'est vrai que le manque de volonté politique, l'absence de vision claire par rapport au développement économique et social, mais aussi l'absence de politiques cohérentes, mais aussi le déficit de management de nos autorités politiques, ont fait que l'agriculture congolaise se retrouve au niveau le plus bas aujourd'hui dans le monde. Et pourtant, le Congo dispose, en termes de terres arables, du même potentiel que la Chine. Qu'est-ce qui explique la différence entre la Chine et la République démocratique du Congo, alors que nous disposons presque du même potentiel? Le Congo dispose d'un potentiel 10 fois plus que la France. Mais qu'est-ce qui fait que la France ait résolu ses problèmes et participe à la résolution des problèmes dans le monde? Et donc, je voudrais simplement vous dire que c'est vrai, il y a eu absence de vision, c'est vrai, il y a eu absence de volonté, c'est vrai, il y a eu absence et des politiques sectorielles efficaces, mais en même temps des politiques globales efficaces. Mais aussi, et c'est vrai, les institutions politiques, comme des acteurs politiques, n'ont pas travaillé dans le sens des celles de l'agriculture, les véritables piliers du développement économique du pays, mais aussi les piliers qui permettent aux citoyens congolais de trouver des emplois, en tout cas de nombreux emplois, mais aussi au monde de respirer.
Il y a le chef des travaux Nibeko Jean-Bernard qui nous écrit de Kinshasa qui dit « Le directeur général de la FAO incite la RDC à exploiter ses richesses pour résoudre ses problèmes alimentaires et en même temps approvisionner l'Afrique en denrées alimentaires. C'est une responsabilité d'un géant qui ne cesse de dormir. » On a l'impression que le Congo ou le Congolais se plaît dans cette posture de potentiellement riche.
Non, c'est à la fois une responsabilité qui devrait être la nôtre. Il ne fallait pas attendre ces messieurs pour pouvoir se prononcer. Je l'ai dit et nous l'avons dit à Paris lors de la réunion de la Banque mondiale. Exactement comme il a dit. Donc, c'est une responsabilité d'abord par rapport à nous-mêmes, nourrir les Congolais. C'est un défi à relever. Il n'est pas normal que dans ce pays-là, 80% de Congolais crèvent. Mais aussi, et je comprends, et je suis même heureux, que l'appel que nous avons lancé à Paris il y a 3 ans ait été entendu par la communauté internationale. Et donc, je comprends que désormais, si nous avons créé les conditions de bonne gouvernance, si nous présentons des politiques cohérentes, nous avons la possibilité d'attirer le monde, c'est-à-dire les investisseurs privés, les bilatéraux comme les multilatéraux, en complément, n'est-ce pas, aux efforts nationaux, c'est-à-dire les budgets nationaux, doivent monter, comme l'a dit Lester tout à l'heure, mais aussi des politiques d'incitation en faveur du secteur privé, n'est-ce pas, aussi bien dans l'agriculture que dans l'agro-industrie.
Merci.
Ceci, en synergie, va permettre à ce que la République démocratique du Congo trouve sa place à moyen et long terme dans le cercle des pays émergents qui créent les conditions pour que le monde trouve des réponses précises à leurs problèmes.
Ingénieur Mamba Mamba, vous êtes président de l'Association des ingénieurs agronomes du Congo. En 1996, l'agriculture occupait 66% de la population active. L'honorable Boussa parle d'un déficit managérial, d'absence de volonté politique. Dr Hubert Ali, secrétaire général au ministère de l'Agriculture, a évoqué des problèmes politiques qui ont mis à mal le secteur agricole. Comment vous percevez cette déclaration du directeur général de la FAO?
Je crois que la FAO est restée constante. Hein. Depuis des années, la FAO fait les déclarations. Il a seulement éveillé notre conscience pour dire que l'agriculture reste un secteur qui peut générer des devises, qui peut créer l'emploi, mais l'intérêt pour l'agriculture n'existe pas.
Comment ça?
Nous avons tourné l'intérêt vers les minéraux. Nous avons tourné l'intérêt vers des ressources, des richesses faciles, et nous avons oublié l'agriculture. C'est ça. Et il rappelle à tout le monde que le retour vers la terre, vers l'agriculture, reste la priorité qui peut faire décoller la RDC.
Il s'agit donc d'un manque de volonté politique, comme a dit l'honorable Boussa.
Mais je crois que
La politique agricole existe, a dit Dr Hubert Ali.
Mais le docteur Ali a résumé les choses, il a complété. C'est que le DG lui-même a manqué de dire. La volonté politique, le budget national, il n'est pas dicté par... il est dicté par le politique. Si au niveau politique, on ne sait pas réaliser 10% pourtant signé à Maputo, donc l'agriculture ne va pas décoller sans combinaison de ressources humaines, de ressources financières. Et le potentiel existe. Donc c'est la combinaison de 3 facteurs qui peut faire décoller. Mais quand les ressources ne suivent pas, vous avez le potentiel, ça va rester toujours potentiel.
Ingénieur Mamba Mamba, donnez-nous un peu plus d'éclaircissement. L'émission est également pédagogique. Quand on parle de 125 millions de forêts tropicales, de terres arables, donnez-nous un peu des éléments qui permettent à nos auditeurs de comprendre la place qu'occupe la RDC en matière agricole.
Vous avez la dimension que vous avez, vous ne cessez de savoir que nous avons plus de 2 300 000 km² de superficie. Quand on parle de terres arables, c'est la terre qui est disponible pour produire. C'est celle-là qui est disponible ici, elle est mise en valeur. Quand on vous dit le potentiel de forêt que vous avez, sans oublier la variété climatique que nous avons le climat équatorial, nous avons le climat tropical, nous avons le subtropical, vers le nord, vous avez même celui qui ressemble au climat tempéré. C'est-à-dire que vous avez des cultures, comme le secrétaire général a dit, qui peuvent être cultivées toute l'année. Qui peuvent être cultivées toute l'année, quand d'un côté il y a la saison sèche, celle que nous connaissons maintenant, il y a des coins où on peut cultiver pour produire pour les populations là où la production pendant la saison sèche est freinée.
C'est le cas de quel produit, par exemple?
Vous prenez, prenons simplement le manioc, qui est l'aliment le plus consommé. Quand vous l'avez chez nous, dans, au niveau de région du centre. Vous pouvez l'avoir ici. Vous pouvez également avoir au niveau du nord. Vous pouvez l'avoir au niveau du sud. Le maïs également. Puisque non seulement l'agriculture, il ne faut pas l'entendre comme un art, il faut l'entendre comme une science. Quand on l'entend comme une science, dès qu'on se décide de produire, on produit pour gagner. On ne fait pas l'agriculture pour le plaisir de le faire. Donc quand vous avez choisi votre site pour produire, vous devez être certain que vous devez gagner. Donc vous allez voir les spéculations qui ne sont pas au sud, que vous pouvez faire facilement au nord.
Il y a Emmanuel Mbouna de Kinshasa. La RDC a certains grands rôles à jouer au niveau national et régional en matière de production agricole, eu égard à ses immenses potentialités. Mais pour concrétiser ce rôle, il faut assurer un bon encadrement du monde paysan, investir suffisamment dans la recherche agricole. Et là, on se pose la question, mais il y avait des grands centres agricoles, des grandes écoles de formation, INERA, Yangambi. Qu'est-ce que c'est devenu tout ça? Le secrétaire général y répondra également.
Non, vous avez ce qui a été appelé INEAC à l'époque. C'est un grand centre de recherche agronomique qui a pour siège Yangambi. Et vous avez des centres disséminés à travers toute la République. Ils s'occupaient de la recherche agronomique. Et c'était ça qui produisait les variétés et mettait sur le marché des variétés à potentialité élevée de production. Mais aujourd'hui, l'INEAC devient, c'est un canard boiteux. Vous avez les écoles techniques qui étaient éparpillées. Vous aviez Ngombe Matadi vers le Bas-Congo. Vous avez Itéa Tibashi vers le Kassai. Vous aviez Mundongo vers le Nord. Mais quand vous voyez les enfants fêter à la fin de chaque année ici, ces écoles tenaient grâce à la coopération internationale. Mais aujourd'hui, l'intérêt pour ces écoles n'existe pas. Mais il faut rentrer. Je vous ai dit, quand vous voulez appuyer sur les ressources humaines, ce sont les ressources qualifiées. Vous avez la faculté des sciences de médecine vétérinaire. À Lubumbashi, aujourd'hui, on vient d'ouvrir à Kinshasa. Donc, sur le plan de gens formés, en ce sens, nous n'en avons pas beaucoup. Mais aujourd'hui, on en a. Mais il faut savoir le mettre à l'œuvre.
Merci. Docteur Hubert Ali à Pierre de Kinshasa, les potentialités dont a parlé le DG de la FAO sont-elles réelles ou utopiques parce que la malnutrition sévit en RDC? Où sont passés les tracteurs des cinq chantiers, docteur Ali? Ça a été distribué en grande pompe à travers les provinces.
Oui, merci beaucoup encore pour cette question. Voilà, avant d'arriver à répondre à cette question, je voulais juste compléter, parce qu'on a parlé tout de suite là de l'agriculture et des instituts nationaux de recherche. Il est vrai qu'on ne peut pas faire l'agriculture sans recherche agricole. Ce sont des choses qui vont ensemble. Et quand on parle de la recherche, cela suppose avoir des équipements, n'est-ce pas? Des installations d'abord qui conviennent pour mener des recherches, des équipements, un financement et surtout des techniciens. Les techniciens viennent des instituts et universités, comme on l'a dit tout à l'heure. Donc, au stade actuel, le niveau de l'INERA, comme on l'a dit, ça se trouve au ras de sol. Il faut relever l'INERA. Il y a eu des efforts qui ont été fournis récemment. Nous avons travaillé avec la coopération technique belge pour certains centres, dont INERA ici à Daliba Congo, en Voisi, à Kipopo, au Katanga et à Mulungu et puis à Lusanga. Quelques centres que nous sommes entrés, il y en avait une quarantaine dans le palais passé. Il faut remettre ces centres en marche. Donc jusque-là, c'est un problème qui est posé. Le problème de financement, l'INERA n'a pas un budget conséquent pour réhabiliter ces centres. Or, c'est vraiment un soubassement. Dans le projet que nous sommes en train de négocier avec les partenaires, partout là où nous intervenons, il y a l'aspect réhabilitation des centres de l'INERA. C'est par exemple le cas que nous sommes en train de faire avec le projet PARSA de la Banque mondiale dans la province de l'Équateur. Il y a Boketa, qui est un grand centre, qui est en train d'être réhabilité de fond en comble pour permettre à ce que les variétés qu'on va diffuser dans la province soient des variétés qui soient vraiment améliorées.
Revenons au tracteur des cinq chantiers.
Les tracteurs de cinq chantiers. C'est vrai que les tracteurs ont été envoyés en province. C'est un problème qui n'est pas facile, la logistique d'amener les machines à travers les pays dans les 11 provinces.
Envoyé presque en vrac.
Pas en vrac, c'est en négociation avec le partenaire qui a livré le tracteur ici au Congo, qui est appelé à amener chaque machine jusqu'au niveau de sa localisation qui était prédéfinie avant même la commande. Donc, il se pose la question. C'est bien de dire que le tracteur va aller jusqu'à Gnocchi, par exemple. Mais il faut que ça y arrive. Les tracteurs sont arrivés. Il y a d'autres pièces qui sont encore en route. Parce qu'il faut le dire, avec les SNCC, il n'y a pas assez de wagons pour amener toutes ces machines jusqu'à bon port.
Et dans d'autres provinces, c'est devenu des éléments de musée exposés chez les gouverneurs, chez les autorités.
Ne soyons pas tout à fait.
Nous avons reçu des témoignages.
Il y a des témoignages, c'est vrai. Il y a des tracteurs qui sont arrivés.
Avérés.
Mais vous devez savoir que les tracteurs, c'est pas les panacées. C'est pas une panacée. Les tracteurs qui sont arrivés, c'est arrivé. Il faut maintenant mettre en place tout un programme qui accompagne les tracteurs. Ça veut dire, on va en blaver. C'est facile aujourd'hui, je vous donne un tracteur, vous faites 50 hectares. Est-ce que vous êtes en mesure d'entretenir 50 hectares?
Mais c'est beaucoup d'argent dépensé sans programme, sans planification.
Ce n'est pas dilapidé, parce que les tracteurs sont là. C'était mauvais si on l'avait détruit, ces tracteurs-là, mais ils sont là. Le problème maintenant, c'est de finaliser le programme, province par province, pour que ces tracteurs soient tout à fait efficaces et rendent service pour lesquels ils ont été achetés. Donc, ça prendra du temps. Donc, la première année, ça n'a pas été une réussite avec l'utilisation de ces machines. Les programmes sont en train d'être finalisés. L'acheminement de semences amélioré et aussi le financement qui accompagne non seulement les travaux à la bourre, mais aussi pour les entretiens.
Honorable Jean-Lucien Boussa, avec vous, nous allons directement aborder la deuxième partie de cette émission. Quel rôle la RDC devrait-elle jouer pour faire face à la crise alimentaire qui frappe l'Afrique? Mais avant, je vous propose d'écouter pour vous cette réaction qui nous vient de Goma au Nord Kivu.
Chantal Faïda depuis Goma au Nord Kivu. Le rôle de la RDC pour faire face à la crise qui sévit le continent africain revient au gouvernement, car il doit assister les entreprises agricoles et vendre dans les secteurs en premier et en prenant un certain nombre de mesures temporaires telles que la suppression des droits des importations de leurs intrants et des taxes dont elles font face. Ensuite, pour les nouveaux investisseurs dans ce secteur essentiel, les faciliter les formalités de création d'une entreprise, bref, le climat des affaires.
Réaction honorable, tout à l'heure vous parliez d'une politique globale.
Oui, mais je crois que l'auditrice a raison. Mais la question est tellement importante qu'il y a beaucoup d'articulations par rapport à cette problématique. C'est vrai que pour que notre agriculture devienne performante, vous avez évoqué les problèmes des tracteurs tout à l'heure, je ne vais pas revenir là-dessus. Est-ce que ces tracteurs ont été achetés dans un cadre de la mise en œuvre d'une politique cohérente et globale, etc. Bon, ça, c'est des questions auxquelles les réponses ne sont pas encore trouvées maintenant. Je pense que c'est vrai. Qu'est-ce que nous voulons pour le secteur agricole? C'est le secteur, comme on l'a dit tout à l'heure, tout le monde est unanime là-dessus, qui permet à la fois de participer à la création de la richesse nationale. Sa participation au PIB était très importante dans les années 60. Et donc, on peut y revenir. C'est un secteur aussi qui permet de résoudre les problèmes alimentaires. Maintenant, quel est le problème? Le problème, c'est que pour arriver à ces résultats, il faut des politiques spécifiques, mais qui s'intègrent dans la politique globale. Qu'est-ce que j'attends par là? Au-delà des actions qui doivent être entreprises au niveau du secteur agricole, il faut une vision de l'État. Quel est le rôle de l'État là-dedans? L'État crée des conditions pour que ceux qui investissent dans ces secteurs-là puissent bénéficier des incitations qui lui permettent ou qui leur permettent de pouvoir se lancer dans les affaires. Notamment les incitations bancaires. Quelles sont les conditions pour permettre aux agriculteurs de bénéficier du crédit? Nous avons eu dans ce pays la Banque de Crédit Agricole qui a disparu. Ça aurait été le mécanisme par lequel les privés qui s'intéressaient à ces secteurs-là pouvaient bénéficier des appuis en termes de crédit bancaire pour investir dans les secteurs. Deuxièmement, le climat des affaires, comme Madame l'a dit tout à l'heure. C'est vrai, il faut améliorer le climat des affaires, créer les conditions qui permettent à ceux de nos compatriotes ou à ceux des citoyens du monde, c'est-à-dire des partenaires extérieurs, qui voudraient bien se lancer dans ce secteur, de trouver les conditions favorables. Mais ces conditions, ce n'est pas que dans le secteur agricole. C'est aussi dans le secteur des infrastructures de transport et de communication qui permet de créer ce qu'on appelle des externalités positives, c'est-à-dire des investissements à impact sur les autres secteurs, dont le secteur agricole. Celui qui investit ou qui produit à des milliers de kilomètres de la capitale, où n'existe pas de route de desserte agricole, où n'existe pas de pont, comment va-t-il, d'abord, un, bénéficier des intrants, deux, lorsqu'il a produit, comment peut-il sortir ses produits agricoles? Donc, je crois qu'une politique sectorielle, d'accord, mais qui s'intègre de manière cohérente dans une politique globale, où l'État a véritablement la volonté de faire de l'agriculture un secteur prioritaire, mais en même temps d'en faire un secteur stratégique qui permet à la République démocratique du Congo d'exporter et donc d'aller vers le monde extérieur pour s'affirmer comme pays qui est capable de nourrir des milliards d'habitants.
Honorable, il y a également votre collègue, l'honorable Odiane Paulin de Kisangani en province orientale, qui dit « Dieu a tout donné à la RDC, mais le pays traverse une crise des leaders capables de transformer ses potentialités en richesse. Ne faudrait-il pas travailler également dans l'homme ?»
Non, je crois que je l'ai dit. Il faut des bonnes politiques. Il faut des bonnes institutions. Il faut certes la bonne gouvernance, il faut améliorer la qualité du management, mais aussi et surtout, il faut des acteurs compétents, capables des visions et des pratiques de gestion pour permettre de faire de ces potentiels immenses la richesse immense de la République démocratique du Congo. C'est cela le vrai débat en République démocratique du Congo.
Merci. Je rappelle que vous êtes député national MLC et vice-président de la Commission économique et financière à l'Assemblée nationale. Ingénieur Mamba Mamba, vous êtes président de l'Association des ingénieurs agronomes du Congo. Il y a des auditeurs qui nous écrivent. Piron, cet internaute qui dit « Une agriculture sans une sécurité foncière de terroir paysan est une insécurité plus qu'alimentaire. » La RDC doit tout faire pour réglementer l'espace foncier rural des communautés pour être à l'abri du razzia des terres arables qui sévit déjà ailleurs, en plus de la promotion de l'agriculture paysanne. Albert de Goma en Nord-Kivu, je pense que les propos de Jacques Diouf sont fondés et la seule chose que le gouvernement congolais peut faire est de sécuriser le territoire national pour que les paysans s'adonnent à l'agriculture, étant donné que la culture moderne n'est pas encore la bienvenue chez nous. Malheureusement, l'insécurité qui règne à l'est du pays expose les Congolais à l'exode rural. Conséquence, nous dépendons de l'extérieur, même pour les produits de première nécessité. Ingénieur Mamba Mamba.
Je vais bondir sur l'aspect foncier. Vous savez que dans notre pays, et vous le savez avec la loi foncière, que les terrains ont été subdivisés en carrés miniers. Mais ces carrés miniers surplantent les terres arables. Il faut repenser la cartographie de ce pays. Il faut redonner l'intérêt à l'agriculture. Dans notre cieux, si l'agriculture est entendue comme priorité des priorités, il devient un ministère important, parmi tant d'autres. Donc, il faut résoudre cette question foncière, cette question foncière qui bloque pratiquement tout le monde. Vous allez voir des gens. Vous avez les tenants, vous allez retrouver des chefs coutumiers qui vous disent qu'ils sont les propriétaires des terres, qui bloquent des hectares et des hectares et des hectares de terres. Il faut une bonne redistribution de ces terres. Surtout, la loi doit protéger celui qui s'élance dans le domaine de l'agriculture. Ça, c'est de un. De deux, quand quelqu'un décide d'investir, c'est un secteur. L'agriculture ne vous produit pas comme d'autres secteurs. Il faut être patient. Si votre patient, il faut qu'également la production soit sécurisée. Combien de gens qui se sont lancés dans la production, qui se retrouvent le jour de la récolte, c'est d'autres personnes qui ont récolté pour eux. Il se pose une question de sécuriser. Ailleurs, les gens ne piétinent pas dans les champs ou dans des plantations privées. Il y a la protection du bien privé. Donc, de trois, l'incitation. Il faut inciter des gens qui s'élancent dans ce secteur. Vous avez parlé de tracteurs. Je vais faire un petit commentaire. C'est un engin important, autant comme les semences, comme d'autres. Quand vous l'avez, on vous les donne gratuitement. Est-ce qu'on doit vous acheter des lubrifiants,
de carburant.
Est-ce qu'on doit vous acheter des pièces? C'est ce que vous voyez. Les gens transforment ça en bien de luxe. Ils ne savent pas l'importance. Et pourtant, quand on lui a donné pour produire. Donc, si vous n'êtes pas capable d'utiliser à bon escient un engin qui vous est donné gracieusement, il faut le remettre.
Mais est-ce que ces gens qui reçoivent ces tracteurs ont été formés pour ça?
Mais les gens font toujours la demande. Vous n'allez pas me dire que les confessions religieuses ne sont pas formées, n'ont pas de secteur. Vous n'allez pas me dire que c'est certains des députés qui ont reçu, ils n'ont pas de l'open de terre. Je crois que quand on se décide, je vous ai dit tout à l'heure, si vous entendez l'agriculture comme un art, que chaque matin les gens doivent venir, à ce moment-là, c'est un problème. Mais il faut rejoindre d'autres pays qui ont donné l'accent. Vous allez prendre l'Égypte, l'agriculture donne 7 milliards de dollars. Puisque tout est mis en œuvre pour que celui qui se lance dans ce secteur périlleux, qu'il puisse être sécurisé et qu'il trouve non seulement vous avez les produits, mais il faut également écouler ce produit.
Donc quitter le stade de l'agriculture de subsistance, simplement.
C'est une évolution qu'il faut faire. Mais malheureusement, 70% de nos populations sont encore dans ce secteur-là. Mais il faut évoluer. Pour évoluer, il faut progressivement, je crois que l'honorable Boussa vous a parlé des banques de crédits agricoles. C'était des banques qui étaient prévues pour les petits producteurs qui pouvaient avoir un crédit. Mais aujourd'hui, il n'y a pas un crédit qui peut être alloué. Mais il faut également saisir ce que tout à l'heure le secrétaire général a dit sur les plans, les stratégies qui ont été élaborées. Mais ces plans demandent qu'il y ait un soutien financier. Mais avec 1%, on ne sait pas faire décoller l'agriculture. Aujourd'hui, nous sommes à l'étape d'élaboration du budget. Il faut qu'il y ait une volonté politique d'atteindre les 10%. Si nous ne le faisons pas, nous allons tourner comme l'art. Et à ce moment-là, l'art reste art.
Docteur Hubert Ali Ramazani, vous êtes secrétaire général au ministère de l'Agriculture. Je vous donne la parole tout à l'heure, juste après cette réaction qui nous vient de Kinshasa pour vous.
Emmanuel Mbouna de Kinshasa. Certes, la RDC a un grand rôle à jouer en matière agricole au plan national et régional, eu égard à ses immenses potentialités naturelles et humaines. Mais pour concrétiser cela, il faut, à mon avis, assurer un bon encadrement du monde paysan et investir dans la recherche agricole. Bref, il faut une bonne politique agricole.
Réaction, Dr. Hubert Ali.
Oui, merci beaucoup, Dr. Mbouna, pour la question. Je vais vous dire une anecdote très simple, qui est une réalité. On était à Maputo en 2003. Dans la salle, il y a un président, je vais citer le président de la Gambie, qui a dit devant ses pairs, qui dit « Moi j'ai un grand pays, mais donnez-moi seulement de l'argent et je vais nourrir toute l'Afrique. » Et tout le monde s'était mis à rire, sachant que la Gambie, c'est un tout petit pays, vraiment comme un fil de fer. Tout le monde s'était mis à rire, alors il s'est expliqué, lui il était sérieux, il a dit « Voilà, ce pays que j'ai, c'est la République démocratique du Congo, qui peut nourrir toute l'Afrique. » Cessez d'attaquer ces pays, cessez de fragiliser ces pays. Si nous pouvons investir, dans ces pays et on va nourrir l'Afrique.
Malheureusement, il l'a dit à la place des Congolais, voilà. Comme d'habitude.
Voilà, c'était juste une anecdote, mais qui est une réalité. D'après ce que dit le docteur Bounda, c'est ça. C'est vrai, je l'ai dit au début, qu'on a pataugé pendant plusieurs années, plusieurs décennies, sans avoir une politique agricole. Et l'honorable Boussa l'a dit aussi, et j'ai beaucoup apprécié, la politique agricole, qui est une politique sectorielle, ne peut se greffer que dans une politique générale qui soit tout à fait en harmonie avec les ressources, avec les richesses et avec les personnes qui habitent ces pays. C'est ça la politique. Nous avons dernièrement signé une charte sur le programme de développement détaillé de l'agriculture africaine.
Où en est la RDC jusqu'à ce jour?
C'est ça que je veux. Je suis intéressé. C'est moi qui ai annoncé les principes. Voilà.
Rapidement, je vous en prie.
Voilà, d'accord. Donc, c'est la charte qui a été signée. Et le pouvoir public, et la société civile, et tous les partenaires au développement. Ça veut dire quoi? Nous avons pris des engagements pour amener la production agricole à un pourcentage qui doit s'élever au niveau de 6% l'an. Aujourd'hui, on était dans les 2%, on tend vers les 4%. C'est pour que dépasser le taux de croissance de la population qui se situe autour de 3,3%. Nous avons signé cette charte, nous sommes en train de finaliser. Nous avons déjà tous les plans de développement provinciaux, n'est-ce pas, qui sont déjà tout à fait à fin terme, et on prépare maintenant le plan national d'investissement agricole. C'est le plan qui va nous mettre d'accord et les partenaires et nous pour mettre assez de moyens pour rendre cette agriculture pas seulement un problème du ministère de l'Agriculture, mais des problèmes nationaux.
Honorable Jean-Lucien Boussa, il y a Charlotte de Kanyama au Katanga qui dit « Pourquoi le gouvernement ne veut pas restaurer, par exemple, le service national pour une production agricole compétitive et suffisante ?»
Malheureusement, je ne suis pas le représentant du gouvernement. Ce que je peux dire, c'est qu'il faut... Même le service national, c'était pour ma part un échec. Comme les tracteurs distribués sans finalité réelle, c'est un échec. On doit définir quel doit être le rôle de l'État. L'État intervient jusqu'à quel niveau et pourquoi faire? L'État intervient-il pour acheter des tracteurs distribués aux citoyens? L'État intervient-il pour créer les cadres, un cadre propice au développement? Mais aussi, l'État intervient-il pour créer des incitations aussi bien bancaires que fiscales en faveur de l'agriculture, tout comme l'État intervient pour la construction des infrastructures ou des dessertes agricoles? J'ai dit oui, voici le rôle de l'État. Maintenant, qu'est-ce que le privé fait et comment l'État permet au privé de venir investir en République démocratique du Congo? Voici la question qu'il faut poser. Donc là-dessus, il y a le rôle de l'État, le rôle du secteur privé, mais aussi la capacité de l'État à attirer les investissements directs étrangers, pourquoi pas, dans le pays. Maintenant, il y a d'autres problèmes qui ont été soulevés. Mais le mode de production agricole. Quel est le mode de production agricole aujourd'hui? Lorsque 70% de nos populations s'adonnent à l'agriculture de subsistance, comment faire pour renverser la tendance, pour que le mode de production nous évite des problèmes, des conflits de terres que nous connaissons dans le pays? Vous savez qu'il y a des conflits de l'insécurité simplement parce que les gens ne savent plus exploiter les espaces à travers le mode de production qui est aujourd'hui celui que nous connaissons. Donc le mode de production, c'est un facteur important. L'innovation et donc la recherche, comme les deux co-débatteurs l'ont dit tout à l'heure. Donc, je pense qu'il faut plutôt des solutions qui vont dans le sens d'améliorer la productivité agricole, qui vont dans le sens d'améliorer la capacité du pays à améliorer la qualité de sa production en volume aussi. Et je crois que c'est ça le véritable enjeu. Tout le reste, service national, distribution des tracteurs à n'importe qui, etc., c'est des solutions totalement qui passent à côté de la plaque.
Honorable, puisque vous avez toujours la parole, juste une brève conclusion, l'émission va d'ici là toucher à sa fin.
Je considère pour ma part que la République démocratique du Congo doit considérer l'agriculture comme le secteur par lequel la richesse nationale va augmenter, mais aussi le secteur par lequel on va résorber le chômage.
Merci. Merci, honorable ingénieur Mamba Mamba, Jean-Marc Véco de Guémena. Comment la RDC peut jouer ses rôles sans infrastructure routière? Un mot sur ça.
Mais je crois que c'est ce qui a été dit tout à l'heure. Sur le réseau routier, il faut relancer les routes dessertes agricoles. Ça ne demande pas grand-chose. Nous avons eu des routes de dessertes agricoles. C'est le rôle de l'État d'inciter les gens dans ces secteurs-là. S'il y a des privés qui veulent s'investir, il faut les encourager. Comme ça, la production qui sort du fond du pays a la possibilité d'arriver dans des grands centres urbains. Ça, c'est de un. De deux, je vous ai dit, la combinaison de ces trois facteurs. Nous avons les potentialités. Nous avons les ressources humaines. Les ressources humaines, j'ai dit, ceux-là qui ont été à l'école pour cela. Et ceux-là qui s'intéressent à ces secteurs. Enfin, il y a les ressources financières qui peuvent venir de l'État et des partenaires. Je crois que le programme que le secrétaire général vous a dit, les partenaires veulent venir, mais nous-mêmes, nous devons montrer que nous avons le moyen pour relancer.
Et la volonté. Docteur Hubert Ali, juste un mot pour conclure.
Oui, comme je peux dire, comme les autres, l'agriculture, c'est le moteur qui peut relancer l'économie du Congo. Sans l'agriculture, c'est là où on trouve les 80% de la population. C'est de là qu'il faut investir pour renverser la vapeur et éliminer le chômage.
Merci, monsieur, d'avoir participé à cette émission. Dialogue entre Congolais, c'est terminé pour ce soir. Merci surtout aux auditeurs qui nous suivent en relais à Mbankana, à Kinshasa, sur Radio Munku, partenaire de Radio Okapi, émettant sur 94.0 MHz. Au revoir.
Pour participer à l'émission, appelez les 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.